présenté par Perrine Kervran
et préparé par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire Vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Au sommaire de l'émission de ce jour, une série documentaire en 6 volets, Les combattants de l'ombre, qui sera diffusée les 12, 19 et 26 octobre sur Arte. Cette série, accompagnée d'un livre, un livre qui reprend photos et témoignages, retrace l'histoire de la résistance au niveau européen. Elle croise les destins individuels de ces résistants dont la somme des parcours tisse l'histoire collective. Les documentaires montrent des témoignages recueillis dans 14 pays, des films d'archives inédits très marquants, et aussi, ce qui est plus rare, des scènes reconstituées qui reprennent les récits et les moments clés de ce que racontent les témoins. L'un des films est consacré plus précisément à la résistance contre le génocide, et c'est ce volet que nous allons évoquer aujourd'hui. Avec nous pour en parler, le réalisateur de cette série, Bernard Georges. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, on peut se demander, avec un peu de mauvais esprit, pourquoi avoir voulu réaliser encore une série sur la résistance ?
Je trouve que l'idée initiale, qui est quand même une idée tout à fait neuve, c'est de considérer l'Europe comme un seul territoire. C'est-à-dire que dès le départ, on a posé comme ambition de ne pas considérer pays par pays les résistances nationales, etc., mais imaginer que peut-être il y avait un mouvement général qui se mettait en place au niveau de l'Europe, comme un théâtre aux multiples décors d'un seul drame. Et c'est dans cet esprit qu'on est parti. Donc c'est une histoire transversale dans laquelle les pays, c'est moins les pays qui comptent que les individus. Et on se rend compte qu'il y a une espèce de dynamique globale qui s'effectue au cours de cette guerre à travers l'Europe.
Oui, c'est ce qui est très frappant quand on regarde le film, c'est qu'on réalise à quel point la résistance est faite de parcours personnels, de prises de décision individuelles, de gens qui se retrouvent par la suite. Mais au départ, c'est toujours une prise de décision.
C'est toujours un acte individuel au départ. C'est-à-dire qu'il y a des différences énormes dans les types d'occupation allemande. Mais pour tous, il y a un événement, quelque part, à un moment donné, qui les fait basculer dans la résistance. Le moment de l'engagement est assez important et souvent tient à des détails. Il y a ceux qui résident de manière spontanée parce que c'est impossible de faire autrement. Et puis ceux qui, petit à petit, rentrent dans un mouvement et toutes les cas de figure existent.
Alors, ce qui est rare aussi, je l'ai dit dans ce film, et qui renforce ce côté d'un parcours individuel dans la résistance, sont les scènes reconstituées. Donc, vous donnez un espèce de décor à un souvenir, à quelque chose de précis que raconte un témoin.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'était aussi une donnée initiale qui faisait partie des choses que je voulais faire dès le début. C'est-à-dire que très vite, évidemment, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune image ou très peu d'images qui pouvait représenter la résistance. Évidemment, par définition, les gens sont dans la clandestinité, ils ne se filment pas, ils ne se photographient pas. Donc il y avait un problème d'iconographie. Et puis il y avait ce souci. Moi, j'ai d'abord mené les entretiens avec tous les témoins, parce qu'il y avait une urgence, vu l'âge élevé qui est le leur. Et tout de suite, les récits m'ont fait penser à des images. J'ai vu des images dans mon esprit et je me suis dit il faut qu'on fasse des reconstitutions pour essayer de porter le souvenir et de le rendre plus fort encore pour le spectateur.
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression de voir un flash presque, parce qu'il s'agit de scènes très brèves, ouais, et qui donnent vraiment une image dans un détail d'un récit.
C'est exactement fait dans cet esprit-là, comme quelque chose qui remonterait à la mémoire du témoin et qu'on aurait le bonheur de partager.
Alors, il y a une autre chose qui est en commun à tous ces résistants, donc c'est leur extrême jeunesse, ce qui est étonnant et ce qui est surprenant, ce qui est toujours surprenant quand on se penche sur la résistance, c'est souvent l'extrême jeunesse de ces gens au moment où ils prennent la décision d'entrer dans la résistance.
Vous
il y a
avez,
des gens qui ont 16
raison,
ans,
ouais.
17 ans, 18 ans.
Vous avez raison, c'est un film sur la jeunesse aussi. Mais c'est un film sur la jeunesse, j'allais dire, un peu contraint et forcé, parce qu'on a eu cette idée, donc tellement loin de l'action, c'est-à-dire qu'on est 70 ans après les faits et que par définition, les gens qui étaient impliqués dans la résistance et qui étaient plus âgés sont malheureusement disparus. Qui reste-t-il ? Il reste les très jeunes. Et du coup, ça a été tout aussi pareil au départ, un point de départ. On s'est dit, on va faire un film sur la jeunesse. Alors c'était aussi un souci de refaire la reconstitution par rapport à ça, à savoir que c'est un film sur la jeunesse mais qui est raconté par des très vieilles personnes et je voulais pas que les gens perdent le fil avec ça. Et donc l'idée de reconstituer, c'est aussi de pouvoir montrer des très jeunes gens qui interprètent leur rôle, utiliser des photos d'époque aussi, pour bien comprendre qu'à travers ce discours, c'est un discours de la jeunesse, de l'engagement de la jeunesse dont il s'agit.
Alors ce qui va nous intéresser plus particulièrement, donc c'est effectivement ce volet de la série qui s'intéresse plus spécifiquement à la résistance contre les persécutions faites aux Juifs, contre le génocide. Donc la plupart des résistants, on le sait, se sont opposés à l'occupant allemand pour défendre leur patrie par patriotisme, mais certains D'autres se sont élevés contre les persécutions faites aux Juifs, contre ce qui sera plus tard la Shoah.
Absolument. Donc on a évidemment fait des choix par rapport, comme on le disait au départ, c'est des histoires personnelles. On a fait des choix par rapport à des témoignages personnels. Donc dans cet épisode-là, on va voir des Belges, on va voir des Danois, mais on va pas voir de Français, on va pas voir de Yougoslaves, on va pas voir de Grecs. Or, on imagine évidemment qu'il y a aussi des gens en France qui se sont levés pour essayer de protéger des Juifs. Mais on a pris effectivement des expériences personnelles très fortes, notamment André Guelen, cette jeune, très jeune Belge du comité de défense des Juifs en Belgique, qui fait un travail absolument remarquable auprès de l'enfance et pour essayer de cacher tous ces enfants. Et c'est un travail de fourmi, c'est un travail remarquable. Et elle en parle avec tellement d'émotion pardon, que c'est toujours, toujours très, 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 très fort. Et puis on a ces résistants danois aussi qui... Je sais pas, par une espèce de souci de démocratie, ils sont assez remarquables, les Danois. On voit ça à travers les 6 épisodes. Et ils traitent la question juive comme un point fondamental de la démocratie. Et on se rend compte que dès le départ, ils ne connaissent pas de juifs. Mais pour eux, l'important, comme ils sont au courant de ce qui se passe ailleurs en Europe, c'est de sauver leur population juive. Et ils vont y réussir d'une manière absolument extraordinaire, puisque plus de 90% de la population juive danoise, bon, ils n'étaient pas très nombreux, bien sûr, mais ils les ont tous fait passer en Suède et donc ils les ont tous mis à l'abri.
Oui, si on revient d'ailleurs sur ce personnage que vous venez d'évoquer, hein, André Erkovitch et Hélène, ça permet de raconter aussi ce qui a été un déclencheur pour beaucoup dans la prise de conscience de ce qui était le sort réservé aux Juifs, c'est le sort des enfants. Et alors, évidemment, il y a toutes les organisations juives, l'OSE, hein, qu'on connaît bien, qui s'est levée pour basculer dans la clandestinité et cacher les enfants. Mais effectivement, pour beaucoup, le sort des enfants a été un déclencheur.
Bien sûr. En plus, André, elle est institutrice à l'époque, elle est toute jeune institutrice. Elle commence à voir arriver des enfants dans sa classe avec une étoile. Donc ça, elle ne peut pas le supporter. Puis elle ne les voit plus. Et donc, tout d'un coup, elle se dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, elle rentre directement dans la résistance sur ce thème-là, sauver les enfants juifs. Et on se rend compte dans ces expériences que c'est terrible. Elle va chercher des nourrissons à la maternité, elle ne dit pas aux parents où elle les amène. Enfin, il y a des scènes qui sont assez... des récits qui sont assez bouleversants et pour lesquels on voit tout l'engagement, justement, de cette personnalité, de cette jeunesse, justement, et où elle est prête à braver tous les risques, elle prend tous les risques pour sauver ses enfants. Ouais.
Et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir que le gouvernement belge, qui était en exil à ce moment-là, a financé cette résistance.
C'est tout à fait étonnant. C'est un des seuls exemples en Europe d'un gouvernement officiel donc, qui est en exil à Londres et qui envoie une très grosse somme d'argent pour ce comité, qui est un comité clandestin, évidemment, et qui envoie beaucoup d'argent, qui passe par la Suisse, pour que le comité puisse fonctionner. C'est-à-dire, effectivement, il faut payer des maisons, louer des appartements, avoir des tickets de rationnement. Il y a toute une organisation à financer. Tous ces jeunes résistants, évidemment, ne font plus que ça. Donc il faut aussi les nourrir et les habiller. Donc il faut beaucoup d'argent. Et en fait, on se rend compte que le gouvernement belge est un des seuls en Europe à investir autant d'argent pour sauver sa population juive.
Et puis on sent aussi qu'il faut des rapports de confiance très forts, des stratégies, des stratagèmes, des ruses très très au point, un système vraiment solide. D'abord pour recenser, pour que la confiance réside entre effectivement les parents et puis les résistants, et puis même entre les résistants eux-mêmes. Et puis elle le dit aussi, c'est difficile de cacher des Juifs dans un si petit pays.
Ouais. Ça c'est assez remarquable parce qu'en fait c'est vrai qu'on se rend compte qu'elle est sur un tout petit territoire et qu'elle a beaucoup de... Elle a beaucoup de difficultés à organiser ça. Et en même temps, la clandestinité, mais c'est ce qu'on verra dans les autres épisodes, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'est organisé assez rapidement, en fait, parce que là, la période qui nous intéresse, c'est 42-43. Et en fait, on se rend compte que depuis le début de la guerre, les gens ont créé des systèmes, des réseaux très cloisonnés. Il y a tout un système chez eux où elle a le vrai nom, elle fait des carnets qui sont cachés dans des coffres, qui s'échangent les uns les autres pour l'identité des enfants, leur donner une nouvelle identité, savoir où ils sont placés. Et tout ça est marqué sur des carnets différents qui s'échangent dans la rue, qui se cachent dans des coffres, et pour qu'il y ait un très fort cloisonnement des différentes actions de chacun, et pour essayer de se protéger au maximum, effectivement, de l'ennemi nazi.
Alors votre film, Bernard Georges, montre aussi des prises de conscience au sein de la population juive de l'Est, notamment qui a connu les pogroms, un refus d'obéir, un refus d'aller vers le sort qu'il commence à suspecter. Et donc dans votre film, on voit Elmi Lémèque Mélamed qui raconte effectivement ce qui lui est arrivé en Biélorussie, qui arrache son étoile et qui dit non, je n'irai pas à ce rassemblement.
Ben c'est Baruch Shub qui fait ça, oui, c'est pas Elimelech. Non, c'est pas grave. Baruch Shub est un Lituanien qui, évidemment, la population non-juive lituanienne a connu un sort absolument terrible. Enfin, comme toute la partie à l'Est, on se rend compte quand on plonge là-dedans que le traitement imposé sur la partie Est de l'Europe, évidemment, n'a rien à voir à ce qui s'est fait en Europe occidentale. C'est d'une violence inouïe. Et Baruch refuse, qui a déjà quitté Vilnius et qui est parti se réfugier dans un petit village biélorusse, parce que les juifs pensent que les biélorusses sont moins antisémites que les lituaniens, est parti avec sa sœur, ils sont cachés au sein de famille, et en fait, il assiste à une rafle et il refuse d'y aller. Alors ça a été une grande discussion d'ailleurs avec les historiens, notamment Olivier Yorka, parce que moi je considérais que d'arracher son étoile était en soi un acte de résistance. Parce qu'il arrache son étoile et dit « moi, je ne vais pas à ce rassemblement voilà, ». Parce qu'il y a un camion allemand qui passe le matin et qui demande à tous les juifs de se regrouper sur la place du village. Et lui, dit « je ne vais pas ». Et en fait, c'est une grande discussion et les historiens me disent « non, ce n'est pas un acte de résistance hein. ». Ce n'est pas ça, un acte de résistance. Mais bon, il y avait toute une discussion autour de ça. Et moi, je trouvais que c'était déjà très courageux de faire ça et de le faire avec autant d'aplomb. Et donc, il va se cacher, il ne va pas être raflé, il va se cacher dans le garage où il travaille. Mais malheureusement, de là, il va assister à l'exécution de toute la population qui a été regroupée dans une grange et dont sa sœur est à l'intérieur. Et c'est un moment très fort du film parce que en fait on se rend compte que c'est une prise de conscience encore une fois individuelle, mais dans laquelle on voit que Baruch, à partir de ce moment-là et au moment où il arrache son étoile, de toute façon il va pas se laisser faire. Voilà, il va pas se laisser faire. Et ça c'est un élément important, je trouve, qu'on voit pas assez souvent dans les films qui traitent de la question de la Shoah, c'est qu'il y a toute une partie des Juifs qui se sont battus armes à la main et qui ont refusé de se laisser déporter, fusiller, exécuter. Voilà.
Il y avait aussi effectivement toute une partie de cette population juive qui avait déjà connu des pogroms, des persécutions, et qui savait que ces choses-là étaient tout à fait possibles et qu'elles étaient à craindre.
Bien sûr. C'est pour ça que la prise de conscience individuelle est importante, mais en même temps, il représente toute une catégorie de combattants, puisqu'on va le retrouver après, il va rejoindre les partisans russes dans les forêts lituaniennes, puis il va se déplacer en Ukraine, mais enfin bon, il est dans cette catégorie de juifs qui se battent, et il en parle à un moment donné, ils sont tout un groupe assez important de juifs de Vilnius qui ont fui le ghetto et qui rejoignent qui vont rejoindre les forêts russes pour se battre avec les partisans.
Alors il y a aussi dans ce film des images d'archives, hein, des photos, des films, on l'a évoqué. Il y a notamment des séquences sur les Einsatzgruppen, donc ces unités mobiles qui abattaient les Juifs dans l'Est. Des images qui sont d'une extrême violence, qui sont très très dures à regarder. Vous êtes posé des questions avant de mettre ces images dans ce film.
J'ai beaucoup à... Je vais vous dire quelque chose qui est assez terrible. J'ai beaucoup... adouci le film. C'est-à-dire la première version du film est inregardable même pour moi. C'est-à-dire que c'est vrai que j'avais récupéré des images bon, qu'on connaît mais qu'on n'utilise pas toujours parce qu'elles sont vraiment très très violentes. Et j'avais fait vraiment quelque chose de terrible, quoi. Même moi, je n'arrivais pas à le regarder, j'ai dit non, c'est trop fort. Et donc je l'ai beaucoup adouci. Et en même temps, je trouve que c'est fondamental aujourd'hui qu'on comprenne le degré de folie qui s'est emparé de l'Europe à travers ce phénomène, parce que ça nous pose une question, ça pose une question à l'intelligence humaine. Comment des hommes ont pu faire ça à d'autres hommes, tout simplement, par-delà tout ce qu'on peut considérer. C'est invraisemblable. Et donc les images sont quand même impressionnantes et nécessaires, je crois, pour qu'on comprenne l'étendue de ce cataclysme, en fait.
Alors il y a aussi une autre image que je voulais évoquer avec vous. Alors je crois que c'est dans la partie qui concerne le Danemark et la Suède, ce film de personnes. Alors c'est une scène de nuit dans des bars qu'on voit des. Alors est-ce que c'est effectivement une scène qui correspond à ce que vous racontez, parce que ça semble incroyable cette scène.
Alors le problème de toutes ces séquences qui sont vraiment proches de ce que racontent les témoins, c'est souvent et dans 95% des cas, évidemment, comme je le disais au début, des séquences de reconstitution qui ont été tournées après-guerre ou tout de suite après-guerre. Donc effectivement, c'est un film qui a été fait à la fin des années 40 pour montrer justement ce que les Danois avaient fait. Et donc j'ai récupéré les images Mais j'aurais pu tourner une séquence sur un bateau. C'est pour ça aussi que j'ai pris la liberté de faire de la reconstitution, parce que la plupart des films qui parlent de la résistance sont eux-mêmes des films de reconstitution. Donc autant les faire soi-même. Mais cette séquence-là est assez, c'est vrai, étonnante, parce qu'elle elle raconte vraiment ce que notre témoin nous raconte avec cette histoire de juifs abandonnés au milieu du Détroit et qui dérivent sur une barque et qui vont être sauvés par un bateau danois qui va les ramener en Suède.
Alors, votre film raconte aussi la façon dont vous dites, alors c'est assez vrai, que l'Europe de l'Ouest a mieux protégé ses populations juives que l'autre partie de l'Europe.
C'est évident. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une tradition démocratique à l'Ouest qui n'est pas la même à l'Est. Il y a un vrai antisémitisme à l'Est, de toute façon. Les pogroms qu'on voit à l'image sont des pogroms qui sont faits par des Ukrainiens. Enfin, il y a tout. On sait qu'il y a eu, évidemment, les Lituaniens, une partie de la population polonaise aussi, donc de l'Est de la Pologne, y compris en Biélorussie. Donc, il n'y a pas du tout le même... Et puis, il n'y a pas le même traitement de la part des nazis. C'est-à-dire que, dès le départ, à l'Ouest, l'occupation est effectivement plus soft, plus tranquille. En France, on est même dans une situation où finalement, il ne se passe pas grand-chose. On a Pétain, on a bombe. Finalement, ça ne change pas grand-chose à la vie. Donc, il y a une très, très grande différence entre les deux parties de l'Europe. Et c'est vrai que cette tradition démocratique des pays de l'Ouest fait que, quand même, il y a eu beaucoup plus d'engagement de la part des non-juifs pour aider les juifs. Il faut dire aussi qu'à l'Est, c'était beaucoup plus compliqué d'aider les juifs. Parce qu'il y avait une répression beaucoup plus violente et beaucoup plus terrible, qui fait que même certains Polonais de la CA qui ont voulu aider les Juifs, et même qui ont participé au combat dans les ghettos de Varsovie, ont été traités comme des... Voilà, ils ont été exécutés sur place quand ils ont été attrapés, et donc c'était très compliqué pour un Polonais d'aider un Juif. Donc il y a cette différence qui est quand même notable. Il y a l'antisémitisme, mais il y a aussi le risque qui est beaucoup plus important à l'Est qu'à l'Ouest.
Alors votre film, vous venez de l'évoquer, Bernard Georges consacre une grande part à la résistance héroïque des habitants du ghetto de Varsovie, des partisans de ce ghetto, donc des centaines de partisans qui se sont opposés aux nazis. Comment vous avez voulu raconter cette épopée du ghetto de Varsovie?
Alors ça, c'était le plus compliqué, parce qu'il n'y avait vraiment aucune image. Il n'y a que quelques photos qui ont été faites par les hommes du général Stroop, donc qui sont les gens qui nettoient le ghetto, les nazis qui nettoient le ghetto. Et rien d'autre. Donc c'était très compliqué. Et en même temps, j'avais ce témoignage absolument formidable de Simcha Rotem, qui est le dernier survivant des combattants du ghetto.
Qui d'ailleurs le dit à un moment, il craignait d'être le dernier des Juifs, presque.
Ouais. Qui est d'ailleurs dans le film de Lanzmann, qui est dans Shoah. Hein, il fait une toute petite apparition dans Shoah. Et donc c'est le dernier aujourd'hui survivant que je suis allé rencontrer à Jérusalem. Et dont le témoignage m'a évidemment parfaitement bouleversé, parce que j'étais quand même pas très... J'avais vu des films, j'avais lu des choses, mais de te rencontrer un témoin, c'est la force de cette série d'ailleurs, c'est le témoignage, la proximité avec le témoin et donc la proximité avec l'histoire qui fait qu'on est emporté, quoi. Et donc quand j'ai rencontré Simra à Jérusalem, j'ai été emporté par son récit et donc ça a été pour moi un vrai challenge d'essayer de raconter ce combat dans le ghetto. Avec pas d'image, avec simplement ce témoignage, avec une espèce de chaos absolu. Je pense que même on est très loin de la vérité, parce que j'ai vu des films, j'ai vu Uprising, j'ai vu des choses qui traitent de ça. Et je pense qu'on est très loin de la vérité toujours. Et quand on a la voix de Simra, quand on a ces mots, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'approche de la vérité et qui est tout à fait terrible à entendre. Et ces gens-là ont eu un courage démesuré, mais c'est vraiment... après, on se dit, ils n'ont plus que ça, ils n'ont pas de choix. Ils vont mourir les armes à la main, et c'est ce qu'ils disent au départ. On a choisi de mourir les armes à la main, donc on va mourir. Et ils opposent une résistance absolument farouche à des moyens. Il y a des moyens gigantesques qui sont mis en œuvre contre eux. Ils sont très peu armés, ils sont cachés dans des caves, et c'est absolument héroïque ce qu'ils font. Voilà. Et j'ai essayé de garder le plus possible cet esprit, et surtout avec cet espoir de Simra qui va sortir et qui va réussir à faire sortir une dizaine de ses camarades qui se sont cachés dans les égouts et qui va réussir à faire sortir du ghetto. Une forme d'espoir quand même dans la séquence, je trouve. Parce qu'il est toujours là pour en parler et que c'est un combat à mort, mais dans lequel il y a quand même des survivants.
Dans ce film, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées, mais aussi beaucoup de choses que vous avez dû mettre de côté. Est-ce qu'il y a des épisodes que vous avez regrettés? Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on peut penser...
Quand on tourne 77 témoins dans 14 pays européens, qu'on tourne, je ne sais pas, 300 ou 400 heures de rush, évidemment, et qu'on fait une série de 5h50, évidemment, on laisse beaucoup de choses à sur les étagères. Donc, évidemment que j'ai des choses que je n'ai pas pu mettre. Alors, ce qui est bien, c'est que comme le projet est assez ambitieux et qu'on a un tel matériau, on est parti sur un projet internet qui est parallèle à la série. Il y aura un site dédié aux combattants de l'ombre dans lequel, qui va bientôt être opérationnel, dans lequel on pourra retrouver des témoignages qu'on ne voit pas dans la série, mais que j'ai tourné également. Donc ça, c'est bien. Il y a un livre dans lequel aussi on retrouve une partie des témoignages. Mais c'est vrai qu'il y a des choix à faire. De toute façon, il y a des choix à faire. Je suis quand même un cinéaste et mon premier souci, c'est de raconter une histoire et que les gens la regardent et ils trouvent de l'intérêt. C'est pas un travail universitaire que j'ai fait, c'est quand même un film. Donc du coup, effectivement, on fait des choix. Et il y a effectivement des personnages que j'ai pas pu faire rentrer dans la série. Et j'en suis triste et malheureux, mais c'est un peu la règle du jeu.
Alors, une dernière question, peut-être pour conclure. Comment avez-vous fait pour retrouver tous ces témoins qu'on voit, qui ont tellement de charisme, qui sont tellement vivants et qu'on voit qui font la vie de ce film?
Ben, ça a été un gros travail de préparation. Hein. J'ai une équipe formidable avec moi. Donc, on a recherché dans chaque pays, alors avec l'aide des historiens. Olivier Vivorca, notre conseiller historique, nous a mis en rapport avec des historiens pratiquement dans tous les pays. J'avais une équipe dévouée à ça. Bon, il existe aussi quand même dans chaque pays, il faut le dire, des musées de la résistance, des associations d'anciens combattants. Enfin bon, c'est des choses répertoriées. Donc ça a été assez simple, ça a été assez long, mais ça a été assez simple de trouver un panel de témoins encore vivants et qui étaient prêts à témoigner. Par contre, ce qui a été plus compliqué, c'est je suis allé dans tous les pays, parce que j'ai moi-même effectué 77 interviews, donc je suis allé dans tous les pays. J'ai rencontré les gens, donc j'avais chaque fois une liste, une dizaine de témoins. Et en fait, j'ai cherché des typologies de personnages, c'est-à-dire qu'il y avait des gens formidables, mais que je n'ai pas pris d'emblée, parce qu'ils avaient des expériences qui ne rentraient pas dans ce que j'imaginais du récit. Ce qu'on voulait aussi, c'est que la série soit suffisamment révélatrice de toutes les tendances de la résistance, de tous les conflits qui ont pu naître aussi à l'intérieur de la résistance. Donc j'avais l'idée d'une typologie de personnages, et je les ai rencontrés, et dans un premier temps, j'ai fait une première sélection, et puis on est retourné sur place, et on a fait les interviews, voilà.
Alors merci encore, hein. Je rappelle Bernard Georges que votre série donc sera diffusée les 12, 19 et 26 octobre sur Arte, que l'on peut se procurer donc le livre dans les librairies aux éditions Albin Michel, et qu'une exposition vient de débuter donc sur les grilles de la Gare de l'Est qui tournera, vous m'avez dit, dans le métro, dans les écoles.
Il y aura dans le métro et dans les écoles, je crois que ça va tourner dans les écoles après. Voilà. Il y a aussi un coffret DVD.
Voilà, un coffret DVD, et puis une journée d'études donc a eu lieu autour de ce même thème. Un site internet accompagne le film. Voilà, donc c'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur internet: www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.